Bonsoir.
Comment dire en disant le tabac, que les haies,
Zimmer.
demande, hein?
Zimmer.
Zimmer. C'est quoi, Zimmer?
Ça, c'est comme en anglais, ça.
Ah, pas été.
Bon effet. Après, c'est quoi que vous voulez ajouter? C'est ça, oui.
C'est original. Rapport, allez. Entendez
Ouais.
dommage.
C'était pas ouais, on aurait dû. C'était mieux avant à l'époque, on faisait. Il y avait même voilà, il y avait du monde, il y avait les gens qui venaient. Allez.
Voilà.
Bon, j'ai pas cherché les. Il y a les livres là-bas, si vous voulez. Ah, d'accord. D'accord, j'ai compris.
Bon.
Alors, juste je fais le partage.
Merci.
Il veut rester debout.
Alors, t'es sûr que je me rappelle toujours bien des murs de un truc.
Tu m'as envoyé des messages. Tu sais que c'était maintenant même les SMS, on voit qu'ils sont reçus. Ouais.
C'est drôle. Allez, c'est drôle.
Ça, on peut pas se cacher. Non. Ça va? D'accord. Alors, on avait vu la dernière fois que Rabbi Yochanan, il avait demandé Tenli Yavne Vechachamea. Il a demandé Yavne Vechachamea. Il a demandé qu'on guérisse Rabbi Tzadok et la famille de Rahman Gamliel. Ça, c'est quand il avait parlé. Donc, il avait parlé à Aspasianus. Il avait réussi à le convaincre. En fait, il avait réussi à avoir un certain effet, une certaine impression. Et grâce à ça, grâce à cette impression-là, Aspasianus était d'accord, il dit, demande-moi une chose. Et en fait, tu as demandé trois choses. Il aurait plus demandé de laisser tomber, il lui a pas demandé ça. Parce qu'il a dit, Kula elo. Ouais, peut-être que ça suffira pas. Mais il a demandé, donc Aspasien, il dit une chose, et lui demande trois choses. Et trois choses, c'est Yabné, Rabbi Tzadok, et les Chacha, et la descendance de Rahman Gamliel. Et pourquoi ces trois choses-là plus qu'autre chose? Alors il dit comme ça, sache que l'intention de Rabbi Yochanan, c'était que c'est grâce à ces trois choses-là, le peuple, il serait Bnei Chorin, et que, en fait, fondamentalement, si on a sauvé ces trois choses, eh ben, le peuple, il sera Ben Chorin. Et on pourra pas les atteindre. Et grâce à ça, fondamentalement, le peuple juif, il serait sauvé. Par ces trois choses-là, le peuple juif, il serait sauvé. Pourquoi? Parce que Yavne Vechachamea, c'est. Une seconde, ouais, je ne suis pas ouvert. Voilà. Yavne Vechachamea, ça, c'est la Torah. Yavne Vechachamea, c'est la Torah. Et Rabbi Tzadok, c'est les Taanit et la Tfila, et ça, c'est une dimension de Avoda. Donc, on a Torah, on a la Avoda, et la famille de Rabban Gamliel, c'est des gens qui sont importants par eux-mêmes, qui sont des dirigeants qui ont une force qui leur est propre.
Pourquoi est-ce qu'il ne les demande pas, il peut pas, ils font quoi ce genre?
Ah, mais
C'est quoi
parce que
ce
quand tu vas, quand tu essayes
demande,
de mater.
ils ne demandent pas, quand même, ils ont une liberté, ils
Non,
font.
ils n'auraient pas, parce que quand tu viens mater, justement, on avait expliqué que les Romains, ils voulaient mater, ils voulaient écraser, en fait, l'identité juive. Et en fait, quand tu vas écraser l'identité juive, qu'est-ce que tu fais? Les intellectuels, les dirigeants et les figures religieuses. C'est toujours comme ça que tu opères. Il y a trois niveaux. Il y a les intellectuels, il y a les figures religieuses, les icônes, en quelque sorte. Et troisièmement, c'est la force, les politiques. ce qui symbolise plus qu'autre chose l'indépendance. Parce que si le peuple juif, il a des politiques, il a des politiciens, il a des dirigeants, donc ils ont une indépendance. Donc les Romains, ils ne détruisent pas, ils n'asservissent pas la lignée de Rabban Gamliel. C'est quelque chose d'absolument incroyable, en fait. C'était pas logique. Quand ta démarche, elle est d'écraser une rébellion, tu laisses pas en vie la famille dirigeante. Parce qu'en fait, il avait montré comment retrouver l'équilibre. Aspasianus, avec la nouvelle de sa nomination, il avait été déséquilibré. Il avait été déséquilibré. Et quand, dans la tête, c'est-à-dire que c'était le travail, on avait dit que c'était le choc, il est tel que quelqu'un, il pense qu'il est capable.
D'accord,
Voilà, c'est comme un qui a gagné au loto. C'est comme un qui a gagné au loto. Tu gagnes le loto, tu deviens fou. Celui qui l'a calmé. Donc en fait, il a montré que l'équilibre de Rome, il dépend de la survie du peuple juif. D'accord, mais donc il a demandé des choses qui garantissaient la survie du peuple juif. C'est un grand miracle, fondamentalement, parce que c'est trois choses que logiquement les Romains, ils auraient essayé d'écraser. Alors c'est quoi? Donc on a dit ces trois choses. Grâce à ces trois choses-là, le peuple juif, il a un kiyoum et on peut pas être cholette, on n'a pas d'emprise. Parce que le peuple juif, il a ces trois choses, alors les goyim, ils n'avaient pas d'emprise sur eux. Parce qu'il y a la Torah, il y a la Tfila, et il y a en eux-mêmes qu'ils ont une chachivout. Un peuple qui a des gens grands, c'est un peuple qui est grand. Un peuple qui réussit à élever des gens, à anoblir certaines de ces personnes. Si on anoblit, c'est que c'est quelque chose de personnel. C'est-à-dire qu'en fait, si moi je possède aucune noblesse, si moi je ne possède aucune noblesse, je peux pas en prodiguer aux autres. Je peux pas élever quelqu'un. Donc en fait, quand on anoblit quelqu'un et qu'on le nomme sur nous, c'est qu'en fait, c'est notre noblesse à nous qu'on a un petit peu dans chacun, qu'on condense et qu'on distribue à quelqu'un. La noblesse du noble, elle vient du fait qu'en fait, c'est lui qui incarne ce que chacun de nous il porte de noble. On a un peuple où chacun. En fait, les nobles, ouais. Si tu es no en Angleterre où tu avais des paysans et tu avais des nobles, ben en fait, le noble, c'est juste celui qui a le pouvoir, mais il n'est pas vraiment noble. Comme en France où c'était juste des gens plus riches, mais ce n'était pas des gens raffinés forcément, c'était pas. T'es pas élevé. La vraie noblesse, c'est que tu as un peuple. Une seconde. Une seconde. Ah mince. J'ai pas donné le bon. Une seconde. Une seconde. Juste, il y a quelqu'un qui essaie de se connecter qui n'arrive pas, donc je vais essayer de là. Pense que c'est là qui est en D'accord, non, ça devrait aller. Bon, on va voir. Il pensait que ça suffisait. Il pensait que ça suffisait, mais il y avait quand même, parce que logiquement, elle aurait dû aller jusqu'au bout. C'est sûr que Vespasien pensait que détruire le Beth Amikdash allait suffire. Mais logiquement, quand tu as une rébellion, tu t'assures qu'il ne reste plus rien. Ouais. C'est-à-dire quand tu...
Parce que Torah, tout ça, je ne pense pas que c'était. Je pensais peut-être que les Juifs, si je le ménage, même eux, pensaient que c'était ça suffisait. Simplement.
Quelque part, s'il n'y avait pas eu cette intervention de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il aurait détruit. S'il n'y avait pas eu cette intervention, il aurait tué tout le monde. Il aurait tué les Chachamim, il aurait. Parce que justement, parce que quand tu veux écraser une rébellion, c'est comme ça que tu fais. C'est comme ça que tu fais. D'accord. Donc maintenant, comme on disait, que la noblesse, elle vient du peuple. C'est-à-dire que la noblesse, elle vient pas. La vraie noblesse, elle n'est pas accordée par des lettres de grâce du roi, parce que si, le roi, il n'est pas en mesure de. D'anoblir, franchement, la vraie noblesse, elle vient du peuple. La vraie noblesse, elle vient du peuple. C'est quoi l'idée? C'est que chacun d'entre nous, c'est quoi la noblesse? La noblesse, c'est le fait d'être. La vraie noblesse, c'est en français, il y a une expression qui s'appelle noblesse oblige. Noblesse oblige, ça veut dire quoi? Noblesse oblige, ça veut dire que je ne peux pas me comporter comme tout le monde et que j'ai des devoirs envers le monde. J'ai des devoirs. Le noble, il a des devoirs envers les autres. Ça, c'est la noblesse. Être noble, c'est avoir des devoirs. D'où ça vient? Ça vient du fait que je suis au-dessus des gens. Parce que j'ai été placé au-dessus des gens, j'ai des devoirs envers eux. Je dois les éduquer, je dois les nourrir si c'est possible, je dois les mener. D'où ça vient? D'où ça vient? Ça vient du peuple. Donc quand le peuple, il a parmi lui une chochelette, donc une lignée de gens nobles, comme la lignée de Rabban Gamliel, c'est en fait, c'est l'expression de l'importance propre du peuple juif, qui est capable d'élever des gens parmi lui et de les nommer comme ses dirigeants. D'accord. Et donc il continue, il dit, quand on analyse, on verra que ces trois choses-là, elles correspondent à trois choses. Pourquoi? Parce que grâce à ces trois choses-là, ces choses-là, elles sont prêtes pour qu'Hachem y fasse avec eux, pour les Juifs, de la bonté, qu'il fasse la bonté au peuple juif, qu'il juge, qu'il soit la justice, qu'il applique la justice sur les ennemis, et troisième chose, qu'il ait pitié d'eux chez Loïchletoubam Sonéem. Ouais. Chez Loïchletoubam Sonéem, que les Sonim, les ennemis, n'aient pas de Shlita. Donc il y a trois choses différentes qu'Hachem il va faire. Il est bon avec eux, il juge l'ennemi. Et il est miséricordieux. Comment est-ce qu'il est miséricordieux? C'est quoi la miséricorde? C'est qu'on n'est pas sous l'emprise des nations. On va détailler ça un petit peu plus. Pourquoi c'est ces trois choses-là? Et en fait, ces trois midot, c'est les midot qu'on connaît sous le nom de Chesed, Din et Rachamim. Et bien que, comme tous ceux qui lisent, qui regardent le Patar Eliaou, ils savent qu'il y a sept midot, on appelle les sept sphirot, mais les trois principales, c'est Chesed, Din et Rachamim. Chesed, c'est la bonté, bonté gratuite. Din, c'est la justice. Rachamim, c'est la miséricorde. Ouais. Une seconde. Et donc, quand il y a tout ça, alors le monde y va bien. On a besoin de ces trois midot pour que le monde y marche. C'est quoi l'idée? L'idée, je pense qu'on l'a déjà dit, mais on va le répéter. Chesed, c'est. Voilà, des fois on a la mais le par exemple c'est quoi l'exemple? C'est il y a beaucoup de gens par exemple ils ont la surprise du vendredi soir et pour les enfants et celui à Shabbat qui arrive on leur donne un bonbon comme ça ils sont contents qu'il y ait Shabbat. Fondamentalement c'est quelque chose de gratuit qu'ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas et c'est pas un dû, c'est un cadeau. Le dîn c'est tout travail mérite salaire. Ça c'est le dîn. Le dîn c'est l'idée de tout travail mérite salaire. Toute conséquence est le fruit d'une cause. Toute cause, toute chose amène à une certaine conséquence. Ça, c'est le dîn. C'est la causalité, c'est la logique, c'est le lien entre les choses. La bonté, elle a aucune raison, elle a aucune logique, elle dépasse tout ça. Il n'y a pas de lien entre ce qui s'est passé et ce qu'il y a maintenant. Et rachamim, c'est la miséricorde. C'est pas la grâce, c'est pas la justice, c'est la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? L'exemple, c'est un enfant qui a fait des efforts énormes et qui a ramené un bulletin vraiment exceptionnel. D'habitude, il a un bulletin passable. Et là, vraiment, il s'est surpassé, il a vraiment bossé, il ramène un bulletin exceptionnel, on lui achète un cadeau. C'est pas un dû. Si je ne le paye pas, je ne lui donne pas un cadeau, c'est pas du vol. Mais c'est pas entièrement gratuit non plus. C'est pas gratuit, puisqu'en fait, il le mérite. Donc la miséricorde, c'est de l'ordre du mérite. La grâce, c'est gratuit, par définition. Le dîn, c'est un dû. Le rachamim, c'est la miséricorde, c'est le mérite. Et aussi, c'est quoi? Ça, c'est un aspect de la miséricorde. Il y a un deuxième aspect de la miséricorde qui est que Hachem, il est ce qu'on appelle ma'arir apaim. Quelqu'un, il a fait une bêtise, la justice voudrait qu'il soit puni instantanément. La grâce, elle n'est pas possible. Ouais. Hachem, il fait le dîn. Hachem, il n'est pas kol haomer akadosh baruch hu vatran, yevatru chayav. Tout celui qui dit, ah, Hachem, il laisse passer, de toute façon que Dieu me pardonne. Dieu, il ne pardonne pas. Celui qui parle comme ça, c'est sa vie qui est pardonnée. Ça veut dire que sa vie, il est plus surveillé par Hachem, il est plus sous la Hashgacha. Et celui qui a plus d'Hashgacha pratit, il risque de mourir très facilement. Alors, c'est quoi la solution? La solution, c'est de dire, je te donne le temps de rattraper. On n'est pas dans la grâce, on n'est pas dans la justice, on est dans l'entre-deux. Il y a un petit peu des deux. Tu vas devoir payer, mais je te donne le temps de réparer, je te donne le temps de faire tchouva. Voilà. Et maintenant, ces trois aspects-là, donc Torah, Tfila et la lignée de Rabban Gamliel, ça correspond à ces trois midot-là, ces trois attitudes-là, ces trois aspects de l'existence. Comment? C'est bien connu que les Chachamim, ils sont attachés à la Mida de Chesed. Comme Chazal disent dans Chagiga, Kol haosek b'Torah b'alayla, Akadash Baruch Hu mosheh alav chut shel Chesed b'yom. Celui qui est osek, qui est occupé. Osek, ce n'est pas celui qui étudie. C'est celui qui est occupé par la Torah la nuit. Ouais, parce que c'est important de faire la distinction. Il y a des gens qui étudient, on peut étudier, mais on n'est pas occupé. Ce n'est pas une occupation. Une occupation, c'est quoi? C'est qu'après, quand il y a autre chose qui arrive, tu dis, mais en fait, je ne peux pas y réfléchir, je suis préoccupé. Je suis déjà occupé. Quelqu'un qui est Osek Batora, c'est quelqu'un qui n'a plus d'espace pour le reste. C'est ça, Osek Batora. Comme le travail de quelqu'un, un Essek, c'est quelque chose qui, en français, on va dire, ça prend la tête. Eh bien, ça, c'est Osek Batora. Et celui qui est Osek Batora la nuit, alors Hachem, il étend sur lui un Chut Shel Chesed Bayom. Comme il y a marqué, Yomam Yetzave Hachem Chasdo. Lama, Mipne, à cause de la Belaïla Shiraimi. C'est le même passage. Le jour Hachem, il ordonne sur eux la bonté, parce que la nuit, ils sont occupés à la chanson de la Torah avec lui. Pourquoi? Pourquoi? Quel rapport entre la Torah et la bonté? Parce que la Torah, elle s'appelle Torah Tresed. Comme il y a marqué, Ve Torah Tresed al-Leshana. Ça veut dire qu'en fait, celui qui étudie, il appelle sur lui la Midata Tresed. C'est l'idée, elle est que bien sûr, celui qui étudie, la Torah, c'est Xerot. Ouais. Comme c'est aussi Midotav Shel HaKadosh Baruch Hu, Rachamim, Ve'enam Ela Xerot. La Torah que j'étudie, c'est une Torah de Xéra, c'est un décret divin. Ça veut dire, mais celui qui suit et qui respecte et qui est préoccupé par les décrets divins, il amène sur lui la grâce divine. Pourquoi? Parce que l'idée, elle est la suivante. HaKadosh Baruch Hu, il veut que le monde, il existe. Istakel Boraita ou Bara Alma. On a déjà dit ça plusieurs fois, que quand Hachem il a créé le monde, la création du monde, l'idée de la création du monde, c'est un grand chesed. Ala bemarshava livro et olam bemidat. Donc Hachem, il a eu comme intention de créer le monde bemidat. Mais l'intention elle-même, c'est une pure bonté. Le quoi de la création, c'est une pure bonté. Le comment, ça c'est le din. Le monde, il n'est pas efker. Parce que si on crée un monde et que le monde, il est efker, alors il n'y a rien qui marche, c'est l'anarchie. Non, le monde, il a des règles, mais la base, l'idée de base, le pourquoi, qu'est-ce qui est à l'origine du monde, c'est le chesed. Donc quand un homme, il est appliqué à comprendre, il est davouk dans le comment du monde, que je veux que le monde y marche, et je suis préoccupé par le fonctionnement du monde en étudiant la Torah, alors j'accomplis la volonté de Dieu que le monde, il existe, et donc cette idée première, cette grâce qu'Hachem il a fait de créer le monde, alors moi-même j'y suis attaché puisque je permets au monde d'exister. Dieu, dans son chesed infini, il a créé le monde. Et maintenant, moi, je m'occupe de conserver le monde. Comme il dit le Nefesh HaChaim, que si par malheur, il y avait un moment où le monde il était vide de Torah, le monde il s'effondrerait sur lui-même. Aya olam chozer le tohu babohu. Le monde, il dépend, l'existence du monde, elle dépend de l'étude de la Torah. Et donc, celui qui est préoccupé par l'étude de la Torah, il est choutaf avec Kadash Baruch Hu dans le Maaseh Breshit, comme il a marqué aussi, ou Maaseh Yadav, que les Chachamim, ils sont plus grands que le Maaseh Shamayim Vaaretz, puisque c'est Maaseh Yadav. Ouais. C'est les deux mains. Kelou, les Chachamim, c'est les deux mains d'Akadash Baruch Hu, parce qu'ils donnent une existence au monde. Donc en fait, ils se font les choutafim d'Akadosh Baruch Hu dans son projet. Et qu'est-ce qui est à l'origine du projet divin? Ce qui était à l'origine du projet divin, c'était un grand chesed. C'était une grâce infinie. Que le monde, il existe, yesh me'ayin. La création du monde, elle n'est pas de l'ordre de la logique. La logique, c'est que telle cause a tel effet. Donc, il faut un début. Il faut un début. La Briat Haolam, c'est yesh me'ayin. C'est yesh me'ayin. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de avant. Il y a un début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de avant. Il n'y a pas de avant. C'est comme la matzah. La matzah, c'est un pain qui n'a pas de avant. Il n'y a pas du levain. Il n'y a pas du levain qui crée le pain. On est avant le pain. Il n'y a pas de avant le pain. Il y a un début. Le monde aussi, il y a un début. Donc, c'est un grand chesed. Et le chacham qui est au sec batora, il est d'avec bemidata chesed. Il est au sec batora. Donc, lui, il est concentré par le comment du monde. Et grâce à ça, grâce à ça, il se fait le canal de la volonté divine que le monde il existe et que la grâce, elle existe. La grâce, elle est présente dans le monde par le Chacham, grâce au Chacham qui donne une vie au monde. Ça, c'est la première chose. Rabbi Tzadok, lui, son aspect, c'était autre chose. L'aspect sur lequel il était concentré, c'est la Midat Hadin. C'est quoi? Puisqu'il jeûnait, il se complétait dans la Midat Hadin. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose de paradoxal. La Midat Hadin, elle dit, n'existe que ce qui mérite d'exister. Celui qui a fauté, il ne mérite pas d'exister. Achoté ou Yamout, le pécheur, il va mourir. Quelqu'un qui a fait une avéra, on le punit. On est dans la logique. Quelque part, il n'est pas logique que l'homme, il existe. Pourquoi? L'homme, ce n'est pas logique qu'il existe parce qu'en fait, Ma'enosh qui disqueré nous. Le dîn, en fait, il dit, n'existe que ce qui existe. C'est tautologique. L'homme, quelque part, il est imparfait. Ma'enosh qui tiskerenu nous. Ouais. Comme on dit, au motard Adam ina behema'in ka kol havel, rima vetolea. Donc, logiquement, la survie de l'homme, elle n'est pas logique. Elle ne correspond pas aux impératifs de la logique et de la justice. Il n'est pas juste que l'homme, il existe, puisque l'homme, il n'est pas parfait. Alors, c'est quoi la seule solution d'exister? C'est de mettre sa vie au service du divin, ce qu'on appelle à kol bidei shamaim, chutz mi'irat shamaim. En me mettant au service du divin, je justifie ma propre existence, puisque mon existence, elle n'est pas pour elle-même, elle est au service du divin, qui lui est infini et complet et parfait. Comme le Ramchal, il le dit, la seule dans le Messiat Yesharim, la seule shlemout qui existe pour l'homme, c'est de s'attacher au divin. Donc, et comment est-ce qu'on fait ça? Grâce au korban. Le korban, c'est milashon karev. Je me rapproche, je m'approche de Dieu, je prends un animal qui me symbolise et je le renvoie à Dieu. Comme pour dire, toute ma vie, je la rends à Dieu. Et le ta'anit, c'est un korban de mes propres graisses, comme on dit à Yom Kippour, que voilà, que les, que le fait que mes graisses elles soient brûlées, ça soit comme un korban, comme le chélev et le dam qui est sur le misbéar. Donc, Rabbi Tzadok, lui, il remplissait, il répondait à l'impératif de justice. L'impératif de justice, il dit, en fait, l'homme mérite Esav. D'ailleurs, c'est pour ça que Esav, c'était un assassin. Esav, c'est un dévoiement de la justice. Où en fait, il regarde chacun et il dit, mais tu ne mérites pas de vivre, donc tu vas mourir. Il y a un dévoiement de la justice chez Esav. Alors, comment est-ce qu'on y répond? Comment est-ce qu'on répond à cette question-là? Parce que franchement, il y a une question. Et cette question, c'est certains philosophes, ils la posent sous le terme de l'absurde. L'homme est absurde. Là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps avec des bêtises. Ouais, à savoir, qu'est-ce que tu vas, voilà, quel poste t'as à ton travail? Est-ce que tu es respecté? Est-ce que on passe la moitié de notre vie à penser à ce qu'on va manger ou est-ce qu'on va aller en vacances? C'est un peu pathétique. Et surtout qu'on n'a pas la Torah, la vie, elle n'a pas de sens. Il y a des gens, ils travaillent toute leur vie pour avoir une certaine place dans leur travail. Et en fait, quand est-ce qu'on est arrivé au summum de l'avancement social? 2 ans avant la retraite. Et après, on prend la retraite. Donc, on a travaillé toute sa vie pour, au fond, garder ce qu'on a voulu pendant 2 ans. Il y a quelque chose d'absurde. Il n'y a pas de sens. Dans la chaîne de la Gemara, c'est mériter ici. D'où est-ce que tu sors? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a une réponse. Cette réponse, c'est le korban. C'est le korban. C'est comme Yitzhak. Yitzhak, c'était une olat mima. Et Rabbi Tzadok aussi. Donc, en fait, il dit, Le monde, le monde, le peuple juif, il a une raison d'être. C'est quoi la raison d'être? C'est d'être au service de Dieu. D'accord. Ça, c'est la deuxième chose. Et la lignée de Rabban Gamliel, c'était Zera Emet Blipsoul. C'était une descendance vraie, sans défaut. Et grâce à ça, il y avait la Rachamim. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ressemble à Yaakov. Avraham, il a eu Ishmaël. Yitzhak, il a eu Esav. Yaakov, Mitato Shlema. C'est comment est-ce que c'est possible que tous les enfants de quelqu'un, ils soient comme il faut? Parce que c'est quelqu'un chez qui il y a aucun défaut, en fait. Quelqu'un qui a aucun défaut, alors ses enfants, ils ne peuvent pas avoir de défaut. Avraham, il y avait. Avraham, sa mida, c'est le chesed, c'est la générosité. Mais. La générosité, elle peut connaître des excès. Avraham, il le contrôlait. Avraham, il contrôlait sa générosité. Mais puisque fondamentalement, il était généreux, alors c'est passé à Ishmaël chez qui c'était dans l'excès. On connaît l'accueil des Arabes. Mais en même temps, il y a un déséquilibre. Chez Yitzhak, il y avait la Midat Hadin. Chez Yitzhak, il y avait la Midat Hadin. Mais lui, il contrôlait. Mais chez son fils Esav, il y avait un excès. Yaakov, lui, c'est l'équilibre. Comme on a dit que le rachamim, c'est l'équilibre entre la justice et la grâce. Et donc, Yaakov qui avait trouvé l'équilibre, il n'y avait pas de défauts fondamentaux qu'il pouvait transmettre à ses enfants, puisqu'il était parfait. Comme on avait expliqué au début que les défauts des gens, du peuple juif, ils viennent pas, c'est pas des défauts intrinsèques, mais c'est l'effet du Yetzer Hara. Et donc, la descendance de Rabban Gamliel aussi, c'était des Chachamim et des Gdolim de père en fils. Donc ça montre qu'en fait, cet équilibre, il était parfaitement incarné. Et donc c'était un groupe qui incarnait plus que tout autre la Rachamim, c'est-à-dire l'équilibre. Et grâce à ça, donc en fait, puisque le peuple juif, il avait à sa tête Yavne ses Chachamim qui incarnait la Torah et donc le Chesed, qui amenait le chesed Rabbi Tzadok, qui répondait au Din, et Rabban Gamliel, qui incarne la Rachamim. Donc, en fait, le peuple juif, il était rattaché à toutes les midot d'Hachem. Et quand on est attaché aux midot d'Hachem, alors Hachem, il nous sauve. Ouais, il y a un grand inyan qu'il faut être d'avec be midotav shel HaKadosh Baruch Hu. Pour exister, Hachem, il veut qu'on soit à son image. Et c'est quoi? Ma'u rachum, ma'fata rachum. Etc., etc. Donc il y a Inyan. Un juif, il vit pour être à l'image de Dieu. Et quand il a l'image de Dieu, alors Dieu, il dit, bah, tu fais ce que j'attends de toi. Et donc, je te donne la vie et je te sauve. Donc c'est pour ça que grâce à ces trois choses-là, le peuple juif, il avait à sa tête trois groupes qui étaient à même d'assurer la survie du peuple juif. Ouais. Et il n'y a pas de safek, dit-il. Ce pérouche, il est évident pour tout celui qui comprend les Ikaré HaChokhma, parce que ces trois choses-là, fondamentalement, c'est les trois midot avec lesquels HaKadosh Baruch Hu et les maniguettes son monde bien comme il faut. Et il faut vraiment réfléchir à cela. Voilà. Quoi? Oui, bien sûr. Parce que s'il y avait le Beth Amikdash, on n'aurait pas eu besoin, parce que le Beth Amikdash, il aurait assuré la survie. Quand il n'y a plus de. Voilà, mais une fois qu'il n'y en a plus le Beth Amikdash, alors il faut trois groupes qui s'occupent de ça. D'accord. Donc maintenant, Aspasianus, il a été mandé, il a été rappelé à Rome pour devenir empereur. Donc il a envoyé Titus, on reprend la Gemara, Azal Chadré les Titus Aracha. Ouais. Alors, si on regarde, une seconde. La Gemara, elle dit, Aspasianus, on l'appelle Aspasianus Caesar. Titus, on l'appelle Titus à rachat. C'est-à-dire que Vespasien, il n'était pas un rachat, c'était un Caesar. Il y avait une certaine logique à ce qu'il faisait. Titus, c'était un rachat. C'était un rachat, par définition, par essence. Et il a dit, comme il dit le Passouk, celui qui a dit, il est où son Dieu, le rocher à l'ombre duquel le peuple juif il s'abrite? C'est Titus. qui a eu des mots, des paroles envers Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait, Maasa Racha? Qu'est-ce qu'il a fait, le Racha? Il a pris une zona dans sa main, il a rentré dans le Kodesh HaKodashim, il a étendu un Sefer Torah, et sur le Sefer Torah, il s'est couché, il a fait son acte. Puis il a pris une épée et il a percé la parophète. Et il y a eu un miracle, il y avait du sang qui coulait, comme qui bouillonnait de là-bas. Il pensait qu'il l'avait tué lui-même. C'est encore un lachon de Saginaw, comme on dit. Ouais. Quoi? Non, et Tatsmo Shalakadosh Baruch Hu, comme on dit, mais Mevarech et Hachem. Ouais. Quand on ne dit pas, il y a une halakha de Megadeth. C'est celui qui maudit le Tout-Puissant. Dans le lachon de Chazal, on appelle ça Bilshon Saginaw, Mevarech et Hachem. Parce qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc on dit ici, Titus, il a pensé qu'il avait tué lui, mais lui, c'est. C'est un lachon naki pour. En fait, il avait pensé qu'il avait tué Dieu. Comme il y a marqué dans Tehilim, Sha'agud sorarecha, sorarecha bekerev moadecha, samu ototam otot. Tes oppresseurs, ils ont crié dans ton moed, dans ton lieu de rassemblement. Ils ont pris leurs signes pour des signes. Ils ont pensé que ce qu'ils avaient vu, c'était un vrai signe. Là-dessus, Abachanan, il dit, Mika mochacha sinka, qui est comme toi celui capable de se retenir à Kadosh Baruch Hu, que toi tu entends ses insultes, son mépris, et tu te tais. Du Beit HaMidrash du Rabbi Shmuel, on dit un enseignement qui rejoint un peu ça. Mi kamocha ba'ilim Hashem, mi kamocha ba'ilmim. Qui est comme toi parmi ceux qui se taisent Hashem? Ouais. C'est-à-dire qu'Hashem, à ce moment-là, il y a une très grande force, quelque chose d'incroyable qu'Hashem, il s'est tué. Logiquement, Titus, il aurait dû disparaître. Il aurait dû être détruit. Mais Hachem, il y a eu quelque chose d'incroyable. Mika mocha chasinka, mika mocha ba'elim Hachem, ba'elim, que Hachem, il s'est tué. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Nata la parochet, vasa kemin garout. Il a pris la parochet, il en a fait comme un panier. Vevikol kelim shebamigdash. Il a pris tous les kelim du migdash et il a posé dans le sac de la parochet et il les a pris, il est parti. Il est parti en bateau pour aller vers son triomphe. Et là-dessus, il ramène un passage de Kohelet. Et il y a une drachée intéressante là-dessus qu'il faudra analyser. Le passage de Kohelet, il dit, Ubechen reiti reshem kvurim, ubaou mimakom kodesh yalechu, beishtakru, beir ashkenasu. Ouais. Et ainsi, j'ai vu des reshaïm qui ont été enterrés et qui sont venus d'un endroit saint. Ils ont été oubliés dans la ville où ils ont fait ça. Et le passage qui dit, c'est l'inverse. Ne lis pas kvourim, mais kvoutsim. Ce n'est pas qu'ils sont enterrés, c'est qu'ils sont rassemblés. Ne dis pas qu'ils ont été oubliés, mais qu'ils ont été loués. Ça veut dire que, en fait, il y a deux moments. Il y a deux moments. D'abord, le rachat, il se rassemble. Et après, il y a des louanges. La tide lavo, le rachat, il sera enterré. La tide lavo, le rachat, il sera oublié. Mais en attendant, le rachat, il repart chez lui, il se rassemble avec les autres, et il célèbre son triomphe. Ouais. Il y en a qui disent que c'est Kvourim. C'est quoi Kvourim? C'est qu'en fait, c'est un rachat qui découvre les choses cachées. Que même les objets, comme ça, il y en a qui disent que même les objets qu'on avait cachés, il les a trouvés. Donc, Titus, il est dans le bateau, il revient vers Rome pour son triomphe. Amad alav Narchal chez Bayam et Tovo, les vagues, elles ont voulu le noyer. Il a dit, moi, il me semble que le Dieu de ceux-là, il est fort que dans l'eau. Paro, il est venu, il a enterré dans l'eau. Sisra, il a enterré dans l'eau. Et moi aussi, il va m'enterrer dans l'eau. Mais sur terre, il n'est pas puissant, puisque je l'ai vaincu sur terre. Et là, je suis dans l'eau, là, il peut m'attaquer. Si vraiment il est fort, qu'il monte sur terre et que là-bas, il me fasse la guerre. Alors, il y a une bad call qui est sortie qui a dit comme ça. C'est toujours le Mahamar Chazal. Racha ben Racha. Racha, fils de Racha. Ben Beno Shel Esav Racha. Et non seulement ton père c'est un Racha, mais tu es le descendant de Esav. Esav HaRacha. Encore une fois. C'est-à-dire que Titus, il incarne sa filiation de descendant de Esav. Esav, c'était un Racha, et toi aussi tu es un HaRacha. Il y a Esav HaRacha, et il y a Titus HaRacha. Behe HaYedia. Et qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Moi, j'ai une petite créature légère qui s'appelle le moustique. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle une briakala? Parce que elle mange. Une seconde. Ouais, parce qu'elle mange, mais elle ne digère pas. Ce qu'elle mange, elle conserve. Et on appelle ça une briakala. Son système digestif, il n'est pas développé. Ouais. Et tu vas monter sur Terre et elle va te faire la guerre. Ouais. C'est le moustique qui va te faire la guerre. Il est arrivé sur Terre. Il y a un moustique qui est venu, qui est rentré dans le nez et qui a percé son cerveau pendant 7 ans, comme un parasite. Un jour, et ça lui faisait des douleurs terribles. Un jour, il est passé devant la maison d'un forgeron. Il a entendu le battement du métal et le moustique, il a arrêté il s'est calmé, le bruit l'a dérangé. Les vibrations, elles l'ont stoppé. Alors, il a dit, ah, ça marche. Donc, chaque jour, on amenait un forgeron qui faisait du bruit devant lui, qui frappe, qui battait le fer et ça le calmait. Si c'était un goy, il lui donnait 4 zouz. Mais un Israël, il donnait rien et dit que ça te suffise que tu as vu ton ennemi qui souffre. Ça marchait 30 jours et après, il s'est habitué au moustique, il s'arrêtait plus. Et Rabbi Pinchas ben Aruva, logiquement, c'est possible que c'était un otage. Ouais. Comme aujourd'hui, on dit malheureusement les ben Aruva, c'est les otages. Donc peut-être que c'est Rabbi Pinchas, le fils de l'otage, je ne sais pas. Ani Haïti ben Gdolé Romi. Moi, j'étais parmi les grands de Rome. Et quand il est mort, Patsu et Mocho, on lui a cassé son cerveau. Ils ont trouvé que le moustique était comme un tzipordror, comme un oiseau qui pèse 2 slaïm. Et on enseigne dans une matnita, il y en a qui disent 2 litrines. Un peu plus petit. Et Abaye, il a dit, on tient que sa bouche était une bouche d'argile, ses pieds de fer et ses ongles de fer. Il faudra expliquer ce que ça veut dire. Donc, quand il est mort, quand Titus il est mort, il a dit que brûlez-moi et éparpillez mes cendres aux 7 mers. Aux 7 mers. Que le Dieu des Juifs, il me trouve pas et qu'il puisse pas me punir. Ouais. C'est cette même fantaisie que les gens, ils ont aujourd'hui quand ils passent au. Ils se font. Ils vont au crématorium. Ils croient qu'ils vont échapper à la justice comme ça. Donc dit le Maharal, ce Mahamar Yeshledagdegbo Harbe Meod. Ce Mahamar, il faut être très précis. Il faut vraiment l'analyser. Pourquoi? Parce que bien que Titus était un Rachagamo, Titus c'est un roi aussi, puisqu'il a marqué que Balvanan Badiripo. Et il se comporte comme ça, qu'il prend un Sefer Torah et il fait du znout en pub comme ça. C'est quelque chose de dégoûtant. Les rois, ils font ça, même s'ils n'ont pas des mœurs très élevées, mais ils ont un harem. Pas, ils vont. Ils ne prennent pas des honnêtes. Un roi, il a un harem qui lui est dédié. Il prend pas quelqu'un de l'extérieur comme ça qui s'offre à tout venant. C'est pas comme ça que ça marche. Et la deuxième chose, c'est qu'on lui a fait un S. Donc il se comporte de manière dégoûtante. Et pourquoi il a fait ça? Deuxième chose, c'est qu'on lui fait un S, qu'il y a du sang qui bouillonne. Et pourquoi? À quoi ça sert? Quoi ça sert qu'on fasse un S à Titus? Et à part ça, pourquoi est-ce que Hachem, il a besoin, c'est une grandeur que Hachem, il se taise. Pourtant, quand Nadav et Abihu, les Bnei Aaron, ils sont rentrés pour faire la Ktoret, là, c'était instantané. Mais, donc, pour eux, il s'est pas tué. Mais pour Titus, il se tait. C'est vraiment le monde à l'envers. Donc, dit le Maharal, il va commencer à analyser Kedar Kol et ce Mahamar Chazal. Ouais. Non, quand le sang il a coulé. Ouais. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que quelque part, il n'avait pas tué. Il faudra rentrer là-dedans. C'est-à-dire que quelque part, il s'est dit, bon, ben, c'est pas fini. D'accord. Mais de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est fou, voilà. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, Bichlal? Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai tué le Dieu des Juifs? D'accord. Alors, quoi?
À chaque fois, ils adorent tout ça. Mais à l'époque, même à l'époque.
C'est
Ah,
le
c'était
premier
un
qui a
truc.
dit, Nietzsche, il a dit Dieu il est mort. Mais le premier qui a dit ça, c'était Amman. Le premier qui a dit Dieu est mort, c'est Amman. Et après, il y a Titus. Ou bien Dieu il dort, ce qui revient au même. Donc, Amman, il a dit Dieu est mort. Titus, il a dit Dieu dort. Et après Titus a dit Dieu est mort. Et après Nietzsche est arrivé et pensait qu'il faisait le malin, qu'il avait inventé quelque chose. Mais non. Mais c'est toujours le même délire. Mais il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'était pas des débiles, c'est jamais des débiles. Alors c'est quoi le c'est qu'est-ce qui se passe ici? Dit le Maharal, sache que Titus Harasha, comme on a dit, son prénom c'est Titus Harasha. Comment il s'appelle? Il s'appelait pas Titus, il s'appelait Titus Harasha. C'est impossible qu'il ne soit pas Harasha. La preuve, c'est que grâce à lui, par sa main, le Beth Akadosh, la maison de nos dieux, elle a été détruite. Celui qui détruit la maison de Dieu, forcément, c'est un rachat absolu. Est-ce que Flavius, il nous raconte que c'était pas un rachat et qu'il avait pitié des gens? Ça, c'est des bêtises. Parce que c'est pas possible. Parce que quelqu'un qui est bon, qui a un petit peu de bon, il peut pas être absolument mauvais. La destruction du temple, c'était un geste qui était absolument mauvais. L'absolument mauvais ne provient pas de quelqu'un qui est bon. Quelqu'un qui est bon, même un petit peu, il ne va pas faire quelque chose d'absolument mauvais. Ouais, c'est comme on dit, il y a des gestes qu'il n'y a que les psychopathes qui peuvent faire. Il y a des gens dans lesquels il n'y a aucune bonté, il n'y a aucune générosité, il n'y a rien de bon. Alors il dit, mais pourquoi est-ce qu'on dit Titus Harasha, mais Nebuchadnezzar, on ne l'appelle pas Nebuchadnezzar, Harasha. Ouais, que bien sûr que Nebuchadnezzar, c'était un rachat et qu'il a brûlé le Beth Amikdash. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu tout ça, tout ce développement avec la parochète, etc., etc. Mais, et plus que ça, arrêt, le Beth Amikdash était plus Kadosh que le premier. Répond le Maharal, comme vous dites, qu'il faut savoir que Nebuchadnezzar, il a détruit le Beth Amikdash, il a fait ça pour assujettir le peuple juif qui s'était rebellé contre lui. Mais Nebuchadnezzar, au fond, il n'avait pas de problème avec le Beth Amikdash, avec la sainteté du Beth Amikdash. Mais il voulait juste assujettir le peuple juif. Mais dans le deuxième Beth Amikdash, fondamentalement, les Juifs, ils étaient assujettis aux Romains. Et même s'il y avait eu un épisode, il y avait un épisode de rébellion, avec les réels ou supposés, mais ça, c'était avec l'empereur d'avant. Cet empereur, il était mort, il avait été remplacé par Vespasien, et à Titus, ils n'avaient rien fait. Ouais. Donc en fait, Titus, ce qu'il voulait, il en a profité pour détruire, parce qu'il voulait détruire, parce qu'il était l'antithèse de la Kedusha. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout ce mécanisme. Nebuchadnezzar, il voulait assujettir le peuple juif. Pour ça, il a détruit. Titus, lui, il n'était pas là pour assujettir. Il voulait détruire, il s'opposait à la Kedusha du Beth Amikdash. Ça, c'est la première chose. Et il dit, maman, même si historiquement, c'est possible que Flavius, il a raison, qu'au début, Titus, il a dit de ne pas détruire le Beth Amikdash. Mais ça, c'est comme les Réchaïm qui disent des mots, mais qu'en fait, ce n'est pas sérieux. Ouais, ne le détruisez pas. Mais en fait, il sait très bien, en fait, il est là pour détruire. Mais il dit, mais non, mais non, mais non, on ne va pas le détruire. Ouais. Comme tous les menteurs qui mentent, qui se donnent une apparence, et ah oui, non, mais ça m'a échappé, ils ne m'ont pas écouté, ils ont fait. Non, non, il y a. En Eretz, on a ce qui s'appelle le Ruach HaMefaked. C'est-à-dire que quand. Il y a un méfaquet, donc il y a un commandant. Le groupe, il se comporte, il comprend très bien ce que le méfaquet, il veut, même s'il ne le dit pas. Et des fois, même le méfaquet, il va dire le contraire parce qu'il est obligé. Mais son détachement, son bataillon, il va très bien comprendre ce qu'il veut. Donc Titus, il disait non, on va pas détruire pour qu'après, dans les annales de l'histoire, on se rappelle de lui comme quelqu'un de bien. Mais ces soldats, ils ont très bien compris ce qu'ils voulaient. Ou bien, pire encore, c'est qu'en fait, à la limite, s'il ne voulait pas détruire le Beth Amikdash, c'est parce qu'en fait, il voulait posséder le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'en fait, il ne voulait pas le détruire, il voulait le profaner, ce qui est encore pire. Parce que détruire, au moins, il y a la ruine, il y a l'absence. Ouais. Il y a une règle quelqu'un qui est tamé, c'est quoi la halakha numéro un de celui qui est tamé? El Amikdash lo yavo. Celui qui est tamé, il peut faire une mitzvah en négatif, en sortant du Beth Amikdash, en s'écartant du Beth Amikdash, l'absence de Kedusha, elle me donne une réparation. Imaginons quelqu'un, que toute sa famille, tous ses amis, tout le monde est parti à Yerushalayim. Ils ont tous fait le Korban Pessah. Et lui, il est tamé. Et du coup, tous, ils sont là ensemble, en train de profiter du Korban Pessah, avec toute la joie qui va avec. Et lui, il est exclu. Cette absence-là, elle est réparatrice. Mais un tamé qui rentre au Beth Amikdash, c'est le pire du pire. Pourquoi? Parce que non content, parce qu'en fait, lui, il va exploiter la Touma, la Kedusha, à ses propres fins. Il va prendre ce qui est Kadosh et il va en faire du tamé. Donc Titus, peut-être que s'il voulait sauver le Beth Amikdash, c'était à l'inverse, pas pour le conserver, mais pour en faire la plus grande profanation qui soit. Et puisque c'est comme ça, donc Hachem, il a dû le sauver en le détruisant pour qu'en fait, parce que le Beth Amikdash, il est détruit, paradoxalement, il en reste quelque chose, le négatif. Il y a quelque chose d'intéressant. Quand Abraham, il a voulu enterrer Sarah, il a eu besoin de parler à quelqu'un qui s'appelait Ephron ben Sochar. Et c'est un nom très bizarre, Ephron ben Sochar. Sochar, c'est Milashon Tsachor. C'est le blanc étincelant. C'est étincelant. Ephron, c'est ce qu'il y a de gris, ce qui a aucune lumière. On a Ephron ben Sochar. On a le gris, celui qui est terne, le fils du lumineux. C'est quoi ça en fait? C'est quoi Ephron ben Tsohar? Tsohar, Tsohar, mais c'est le hé et le ré, des fois ils sont interchangeables. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une. Ça vient, au fond, c'est la même chose. Oui, hé et ré, c'est la même chose. C'est quoi Ephron ben Tsohar? Ephron ben Tsohar, c'est un animal, il n'a pas. Quand on parle d'un animal, on parle d'un cadavre d'animal. Quand on parle d'un homme, on parle du corps. C'est quoi le corps? Le corps, ça nous rappelle qu'il y avait quelque chose. C'est la trace. C'est la trace. Donc, Ephron ben Tsochar, on n'enterre pas les animaux. À part aujourd'hui, on enterre les chiens et les chats, mais bon, pas rien pour eux. Mais les corps, les animaux, on ne les enterre pas parce que leur corps, il ne représente rien. Le corps d'un homme, il est la trace de la neshama qu'il y avait dedans. Ephron ben Tsochar. C'est-à-dire que justement, cette trace-là, elle a du sens. Elle a, et donc, on l'enterre justement par respect de ce qui reste. On l'enterre parce qu'on croit à la Neshama. Celui qui n'a pas de Neshama, on n'enterre pas son corps. On enterre. Mais quand on voit le corps, on se rappelle la Neshama et ça laisse une trace. Donc ici aussi, le... voilà, parce qu'en fait, Ephron ben Tsochar, c'était celui qui, c'était en fait, c'est celui qui détient, mais plus que le cimetière, qui détient fondamentalement la postérité des gens. Le fait y a quelque chose qui reste après la mort, y a une trace qui reste après la mort. Les gens, ils meurent, leur Neshama, elle monte au ciel. Sarah, sa Neshama, elle monte au ciel. On avait besoin de laisser une trace. C'est quoi cette trace-là? C'est la tombe. Un corps qui est exposé, c'est comme un cadavre. Une tombe, c'est un zikaron. La tombe, ouais, c'est un zikaron. La mausolée, ouais, comme la Chachelagma, elle dit, Enosim zikaron latzadikim, divrei. C'est quoi? C'est une mausolée. C'est quelque chose, c'est une trace. Donc ici aussi, la destruction du Beth Amikdash, paradoxalement, elle a sauvé la mise. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une trace. C'est quoi la trace? C'est l'absence, c'est la ruine. Mais donc en fait, le Beth Amikdash, il a brûlé parce que le laisser dans les mains de Titus, ça aurait été encore pire. Mais vadai, ce que Titus, il voulait faire, c'était une destruction absolue. Peut-être qu'il aurait conservé les murs, mais ça aurait été une perversion totale du Beth Amikdash. Et le plus logique, c'est qu'il voulait bien mettre le brûlé. Ouais. Et donc, c'est pour ça, quand on comprend que la destruction du temple, c'était vraiment une ashrata, on comprend que Néron, qui n'était pas un rachat à tel point, eh ben, on a voulu le forcer à détruire Yerushalayim, il s'est converti. Parce qu'en fait, l'opposition, on l'a voulu le forcer d'une mara à faire quelque chose qu'il ne voulait pas. Et quand on veut te forcer à quelque chose que tu ne veux pas, ça va renforcer ta position. Donc en fait, Néron, c'était quelqu'un de correct. Mais on a voulu le forcer à détruire le Beth Amikdash. Et lui, quelque part, il était attaché au Beth Amikdash. Et vu qu'on l'a forcé, ça a renforcé cet attachement au Beth Amikdash, à tel point qu'il se convertit. Mais Titus, c'était un rachat. D'accord. Et maintenant, ce qu'on dit, qu'il a pris une zona dans ses mains, qui est entré dans le Beth Amikdash, il dit en fait, c'est pas qu'il a fait un geste comme ça. Il n'a pas fait ça. Mais il a fait rentrer quelque chose qui est de l'ordre de la zona dans Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que quand il est rentré dans le Makom HaKodesh pour le détruire, le Kodesh HaKodashim, c'est un endroit, c'est l'endroit d'Akadosh Baruch Hu. Comme on dit, depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, Beolamo. Mais jusqu'à là, le Makom de la Shrina, c'était. Mais c'est son endroit. Jusqu'au moment de la destruction, c'est là où la Shrina est vraiment partie. Il y avait un endroit qui était l'endroit d'Akadosh Baruch Hu, et il a pris cet endroit et il en a fait un endroit qui est attaché au Dieu étranger. Quant à Titus qui rentre, d'endroit de Gdusha, c'est devenu par définition un dieu, un endroit d'Avodazara. C'est un endroit, parce que là où Titus, les endroits que Titus il s'approprie, c'est des endroits d'Avodazara. Il y a une idée que le Gaon il développe que le Reshut Hayachid, c'est l'endroit de la Shrina. Le Reshut Arabim, c'est l'endroit, c'est le Bachout, c'est ce qui est Khitsoni, c'est ce qui est extérieur. C'est tout plein de choses qui sont extérieures à la Kdusha. Quoi? Parce que. Alors ça, on dit que peut-être dans le deuxième chat, Hachem, c'est pour ça qu'Hachem l'a détruit, pour que ça ne devienne pas ça. C'est-à-dire qu'on a développé. Mais même, c'est-à-dire qu'en fait, le détruire, c'est dire qu'il n'y a pas de place pour Dieu. Détruire le Kodesh à Kodashim, c'est de dire qu'il n'y a pas de place pour Dieu. Donc c'est y installer à la place autre chose que Dieu. Et c'est ça qu'on appelle Zona. Pourquoi? Parce que la Vodazara, elle a été comparée, nous dit le Maharal, à une Zona. Tout endroit, là, Bechol Makom, quand on parle d'Avodazara, on parle de Zona. Ouais. Pourquoi? Et au sujet du molaire, il y a marqué, je les retrancherai eux et tous ceux qui sont zan après eux. Parce que, pardon, la Avodazara, c'est le znout. La Avodazara, c'est le znout. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi que ça veut dire que la Avodazara, c'est le znout? C'est qu'en fait, si on prend l'idée d'un mariage, dans un mariage, il y a un homme et une femme. Et l'homme, il prodigue à la femme. Il doit prodiguer trois choses. Chair, soude, veona. Ouais, l'homme, il prodigue à la femme. Il donne la vie à la femme. Et non seulement il donne la vie à la femme, mais il donne les moyens à la femme de développer quelque chose d'autre. C'est ce qu'on appelle ona. Ouais, où il lui donne ce qu'il a en lui, son zera, et de là, ça naît un enfant. Donc l'homme, quelque part, il fait vivre la femme. Et il lui donne les moyens de subsistance. Et parfois, il y a une femme qui vient de l'extérieur et qui s'approprie ce qui, en fait, reviendrait à la femme. Ça, c'est le lachon de Zona, qui est, quelque part, il y a le lachon de Zan. Elle se nourrit de ce qui lui appartient pas. Vezanou, ouais, Azan, c'est intéressant. Comment est-ce qu'il y a les mêmes lettres? Ça veut dire qu'en fait, la Zona, elle s'approprie des choses qui ne lui reviennent pas. Elle détourne. La Zona, c'est un détour. Elle détourne ce que le mari il est censé prodiguer à la femme. La Zona, elle se l'approprie. La Avodazara, c'est la même chose. C'est qu'en fait, c'est se nourrir. Mais en fait, c'est se nourrir de quelque chose qui n'a pas. Non. C'est Kélou, mais parce qu'en fait, elle. La femme, elle se nourrit pas. La femme, elle est nourrie. Elle vient et elle attrape. Elle attrape, elle se nourrit. Elle se nourrit de ce qui ne lui revient pas. Et en fait, la Avodazara, c'est quoi? C'est que dans le monde, Hachem, il donne la bracha. Hachem, il donne la bracha dans le monde. Il y a la bracha. Tout le temps, il y a la bracha. Ça n'existe pas qu'il n'y ait pas la bracha. Mais quand on sert la Avodazara, c'est qu'on dit, en fait, tu sais quoi? Moi, la bracha, en fait, elle me vient pas d'Hachem directement. Elle me vient d'autres choses, c'est des systèmes. La Avodazara, c'est des systèmes. À moi, je vis grâce à la bourse. Moi, c'est l'État français. C'est des systèmes. Ces systèmes-là, moi, je vis grâce à ces systèmes. Celui qui pense comme ça et qui nourrit ces systèmes, il fait quelque chose de très pernicieux. Et comme ça, il y a marqué dans les Sfarim que non seulement, en fait, il refuse de recevoir la bracha directement d'Hachem, mais en fait, il permet à ces systèmes de s'approprier la bracha. Ça veut dire qu'en fait, d'habitude, le bon mahalakh, c'est que le peuple juif y reçoit la bracha et que grâce au peuple juif, le monde entier reçoit la bracha. Celui qui fait Avodah Zarah, il dit en fait, moi, je ne veux pas être nourri par Dieu. Je veux que mon système, il me nourrisse. Alors, comment ça se passe? Eh bien, Keilu, je donne la force à la Avodah Zarah et la Avodah Zarah, elle reçoit la bracha. Les gens qui disent, oui, moi, je vis grâce à la bourse, ben, en fait, au lieu de recevoir la bracha d'Hachem, il faut en sorte que ce système-là, c'est par lui que vient la bracha. Et donc, en fait, on s'écarte d'Hachem et on installe quelque chose d'autre à la place. Donc, au lieu que la bracha, elle arrive à la femme légitime directement, ouais, c'est-à-dire qu'au lieu qu'Hachem, il donne la bracha et que ça arrive chez l'homme, eh ben, la Avodah Zarah, elle détourne cette bracha et après, oui, elle va le retransmettre. Mais c'est quand même marqué. Hara l'Iznounim, elle a conçu en dehors du mariage. Ouais, comme il dit sur Tamar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a un Mahalar qui est en dehors de la bracha d'Hachem. Et donc, Titus, quand il rentre dans le Beth Amikdash et qu'il est Tophazona, c'est qu'il dit, moi, je veux pas du système divin. Moi, je veux pas que moi, j'ai un système à moi. Et il rentre là-bas. Ça veut dire que l'endroit où il y a la bracha, toute la bracha, elle arrive. Ouais, elle arrive par le Kodesh HaKodashim et elle sort. Elle se propage à partir du Kodesh HaKodashim. Et là-bas, moi, j'enlève ça. Au lieu que la bracha, elle arrive directement au peuple juif, ben moi, je vais la détourner. Je vais installer Isha Zona, c'est-à-dire la Avodah Zarah. Et ça, c'est un Mahalar. C'est ça qu'on dit qu'il a fait rentrer une Zona. D'accord, on va s'arrêter là pour ce soir, parce que voilà, il nous reste quelques minutes. Donc on va s'arrêter là. D'accord?
C'est un peu
Quoi?
dur.
Ouais, ça veut dire quoi? C'est un peu dur à
Non,
entendre.
dans ce sens.
Il a donné le choix aux gens.
C'est dur. C'est dur à entendre. Qu'est-ce que ça veut dire que mon cas, entre les portes et les deux, et d'un coup, on n'a pas fait de l'aide de ce cas, mais on est très mal à faire. Parce que ça, quand tu dis comme ça, et
Et c'est Mika Mocha, c'est justement ça. On va développer après qu'il y a le silence ici est phénoménal. Mais
c'est ça.
ça, c'est la suite. C'est Mika Mocha, Chasinka, Mika Mocha, Baeli Machem. Ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on va analyser par la suite de Droit d'Hachem. Voilà. Bonsoir. Bonne soirée. Merci d'être venu.